Alors bonjour tout le monde, ici c'est Pasteur Pat qui vous parle. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série sur l'œuvre accomplie, une série qui va parler de qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ sur la croix. Vous allez voir, c'est un sujet qui est très important et qui englobe pas mal de choses. Et ça, suivez-moi, je vous invite à me suivre et puis on va regarder ça ensemble. Alors, premièrement, qu'est-ce que l'œuvre accomplie? Bien, l'expression « l'œuvre accomplie » est tirée de l'Évangile de Jean au chapitre 19 et au verset 30, où on voit Jésus qui va prendre du vinaigre et qui après ça va dire « tout est accompli », il va baisser la tête puis il va rendre l'esprit, Jean 19, 30. Et là, quand il va dire « tout est accompli », bien l'expression « tout est accompli » va traduire un seul mot grec qui est « tétélestai ». Tétélestai. Et tétélestai, dans les fouilles archéologiques, on a trouvé des documents, des tablettes, des trucs où est-ce qu'il y avait des factures, où est-ce que les gens devaient certaines sommes d'argent. Et quand la somme d'argent avait été réglée, alors qu'est-ce que le vendeur faisait, hein, le créancier, qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait sur la tablette « payé au complet, tétélestai ». Donc, ça voulait dire plus de choses que ça. Ça englobait plus d'idées que ça, plus de concepts que ça, le mot tétélestai. Mais déjà, hein, ça voulait dire ça. Ça voulait dire donc tout est payé, tout est accompli. La chose est amenée quelque chose à son terme ou à son but. Hein. On voit vraiment que c'est un mot qui est important. Mais l'œuvre accomplie englobe beaucoup plus que la notion de payer au complet. En fait, l'œuvre accomplie englobe tout, de l'incarnation à l'ascension, hein, que ce soit la naissance, la vie, la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus au ciel, son exaltation. Parce que dans chacun de ces aspects-là, Christ va accomplir, va faire quelque chose d'essentiel pour nous. Et dans sa naissance et sa vie sur terre, ben Jésus va accomplir quelque chose, va accomplir quelque chose de vraiment important. Et on va regarder ça tout de suite ensemble. OK? Donc, est-ce que vous savez ce que ça veut dire le mot exégèse? Souvent, quand on va parler d'études de la Bible, de théologie, vous allez entendre peut-être le mot exégèse, faire l'exégèse d'un texte. On va aussi entendre ça en relation avec l'autre mot qui est peut-être plus complexe, en tout cas, herméneutique. L'herméneutique, ben, c'est l'ensemble des outils, des règles, des moyens qu'on va utiliser, hein, pour interpréter un texte. Et quand on va prendre ces règles-là, ces moyens-là, quand on va les mettre en application, quand on va appliquer ça au texte, alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait l'exégèse du texte. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va ressortir du texte son sens. D'ailleurs, le préfixe « ex », « ex », on l'entend souvent en français, on l'entend souvent en anglais, peut-être dans d'autres langues, je ne sais pas, mais je sais qu'en français et en anglais, on le voit souvent. Souvent dans les bâtiments, ici au Québec ou ailleurs, on va voir une pancarte où c'est écrit « exit ». Mais là, en cas d'urgence, ça, c'est la sortie à prendre. OK? On va sortir de quelque chose. L'exégèse. Un autre mot qui lui est apparenté, mais qui est comme son antonyme, c'est le mot eisegèse. Alors, plutôt que d'avoir le préfixe EX, on a la petite préposition EIS grec, eis, qu'on va mettre avec gesis, le gèse, et qui veut dire rentrer un sens dans le texte, imposer un sens au texte. Alors, évidemment, la personne qui est sérieuse et qui prend les Écritures au sérieux va non pas vouloir rentrer un sens, prendre ses désirs pour la réalité puis l'imposer au texte, mais va vouloir sortir le sens du texte, savoir qu'est-ce que le texte veut dire, qu'est-ce que l'auteur a bien pu vouloir dire quand il a écrit telle chose. Mais maintenant, vous allez peut-être me dire, mais Patrice, pourquoi tu nous parles de ça? Pourquoi tu nous parles d'exégèse alors que tu viens nous dire que tu voulais parler de l'œuvre de Christ? Ben, on va regarder quelque chose qui est vraiment intéressant. Parce que, voyez-vous, dans l'Évangile de Jean, encore une fois, on voit le verset 1, 18, chapitre 1, verset 18, où c'est écrit, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Le mot connaître ici, c'est exégéomai, le même mot qui est traduit par exégèse. En d'autres termes, le Fils est l'exégèse du Père. Le Fils nous révèle le Père. Le Fils nous fait voir le Père. Le Fils nous montre le Père. Imaginez-vous l'importance de ça. Alors que Jésus-Christ est sur la terre, alors qu'il marche, alors que les gens peuvent le voir, le toucher, l'entendre, le voir réagir, le voir agir, voir comment il y a ses interactions avec les bandits, ses interactions avec les pêcheurs, ses interactions avec les gens qui se croient justes, toutes ces interactions. On le voit agir, on le voit réagir, mais dans tout ça, il nous montre le Père. C'est pas beau ça? Moi, je trouve ça remarquable. D'ailleurs, il y a d'autres passages qui nous parlent de cette idée-là. Jean 14, 9, Jésus va dire à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Le Fils nous montre le Père. » Jean 5, 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Fils fait ce que le Père fait. Le Fils fait ce qu'il voit faire le Père. » C'est beau ça, parce que ça veut dire que quand le Fils, quand on va voir Jésus-Christ interagir avec des petits-enfants, bien, ça nous montre le cœur du Père face à ces petits-enfants-là. À chaque fois qu'on va voir le Fils interagir, on voit le Père interagir. C'est pas beau ça? Moi, je trouve ça remarquable en tout cas. Regardez bien ce passage-là ici. Le Fils n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Matthieu 20, 28. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Même s'il est seigneur, le Fils se fait serviteur. Même s'il est seigneur, le Fils se fait serviteur. La beauté du Fils, c'est quoi? C'est qu'il nous révèle la beauté du Père. La beauté du Fils nous révèle la beauté du Père. Et ça, moi, je trouve ça impressionnant. Parce qu'on va voir que Dieu est amour, et ça, c'est important. Vous savez, le Fils, quelqu'un est venu voir Jésus un moment donné, et lui a dit, « Maître, quel est le plus grand commandement? » Et Jésus va dire, il dit, « Aime le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. De ces deux choses dépendent la loi et les commandements. » Imaginez-vous, Jésus-Christ a agi et a aimé tout le monde. Il a aimé ses amis, il a aimé ses ennemis. Alors qu'il était cloué à la croix, Jésus a dit de ses ennemis, « Père, pardonne-leur. » Alors qu'il était sur la croix, Jésus a prié pour ses ennemis. Ça montre le cœur de Dieu. Ça montre un Dieu qui aime tout le monde, même ses ennemis. C'est pas beau ça? Moi, je trouve ça remarquable en tout cas. Et on voit dans les Écritures, la plus belle définition que la Bible donne de Dieu, à mon avis, la plus belle définition, une définition qui est courte mais qui est très belle, c'est celle-ci. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour vous, pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. 1 Jean 4, 8 et 16. Dieu est amour, et ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Il est amour, c'est ce qu'il est. Ce qu'il fait va donc manifester ce qu'il est. Ce qu'il fait va manifester le fait qu'il est amour. Et donc, et ça, on voit Jésus-Christ interagir avec les êtres humains alors qu'il est sur la terre, et on voit cette exégèse-là d'un Dieu qui est amour. On va le voir interagir avec amour avec les gens, et ça, moi, je trouve que ça nous en dit long sur Dieu. Et sans la venue de Christ, si on met de côté Jésus, on aurait pu s'imaginer plein de choses sur Dieu. Mais si on prend Jésus au sérieux, si on prend Jésus-Christ au sérieux, si on prend ce qu'il nous a dit au sérieux, alors quand on voit le Fils agir, on voit le Père agir. Moi, je trouve ça très, très encourageant de voir un Dieu si proche de nous. Hein? De voir un Dieu si proche et si béni. Dieu va dire, il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés, Ésaïe 43, 25. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu agit par amour pour lui-même. Évidemment, Dieu agit, Dieu est amour. Et on le voit dans ces deux passages-là, comment il va agir par amour pour lui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'amour n'est pas égoïste. On voit ça dans la définition de l'amour d'1 Corinthiens 13, 4 à 6. On voit que l'amour ne se cherche pas elle-même. On voit que l'amour n'est pas égoïste. Et donc, comme l'amour n'est pas égoïste, comme l'amour ne se cherche pas elle-même, hein, ne cherche pas son propre intérêt, Dieu qui est amour n'est pas égoïste, n'est pas son propre centre d'intérêt. Ne va pas chercher son intérêt. Et donc, même s'il va agir par amour pour lui-même, il est amour. Tout ce qu'il fait va être empreint de cet amour-là. Okay? Mais, ce qui est remarquable, l'Éternel me dit, « Va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux. » Osée chapitre 3, verset 1. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, Dieu agit par amour pour les humains. Alors, Dieu agit par amour pour lui-même. Dieu agit par amour pour les humains. Donc, l'amour définit ou l'amour exprime ce que Dieu est, tant envers lui-même qu'envers nous les humains. Et cette expression de l'amour de Dieu, c'est ce qui va sous-tendre, hein? C'est ce qui va sous-tendre, qui va être la fondation de l'œuvre accomplie. Dieu aime, c'est pourquoi il envoie son Fils. Hein? Dieu nous aime, c'est pourquoi il envoie son Fils. Dieu s'aime lui-même, c'est pourquoi il envoie son Fils. Par amour, Dieu envoie son Fils. Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est que Dieu, avant la création, vous savez, Dieu, là, quand on parle de Dieu, on parle de Dieu en rapport avec le monde créé. Mais avant tout créer, parce que Dieu n'était pas obligé de créer. On s'entend, Dieu aurait pu décider. Dieu était très bien. Il y avait au sein même de la Sainte Trinité, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les trois étaient dans une communion, une communauté d'amour, de toute éternité, il n'avait pas besoin de rien et il n'avait certainement pas besoin de créer l'univers parce que l'amour était parfaitement comblé dans cette communion qui existait entre le Père, entre le Fils, entre le Saint-Esprit, entre le Père et le Saint-Esprit, entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Père, entre le Fils et le Saint-Esprit, entre le Saint-Esprit, le Père et le Saint-Esprit et le Fils. Il y avait cette trinité d'amour qui était entière, qui était parfaite en elle-même. Dieu va choisir de créer. Et dès qu'il va choisir de créer, et là, il va s'établir une relation entre le Créateur et la créature, entre Dieu et son règne. Mais avant la création, Dieu n'était pas Dieu comme tel. Il n'y avait pas de créature sur laquelle il établissait son règne. Par contre, Dieu, l'Éternel, a toujours été Père, puisqu'il a toujours eu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a toujours été Père, le Fils a toujours été Fils, le Saint-Esprit a toujours été Saint-Esprit. Mais le Père est Père avant même d'être Dieu. Voyez-vous la beauté de ça? Ça veut dire que le nom de Dieu, et là je résume ça aussi ici, le nom de Dieu lui donnait à cause de sa relation avec les êtres différents de lui-même, c'est-à-dire ses créatures. L'Éternel est Dieu depuis la création. Dieu le Père a toujours aimé le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils a toujours aimé le Père et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a toujours aimé le Père et le Fils. L'Éternel est Père de toute éternité. Ça, c'est quelque chose de phénoménal. Mais vous savez que le Père, il y a le Fils, il entretient une relation particulière avec le Fils parce que le Fils est Dieu, tout autant que le Père et que le Saint-Esprit. Pourtant, Dieu va créer l'humanité. Et là, tranquillement, dans la suite des temps, va s'établir deux grandes familles d'humains. Il va y avoir, on pourrait dire, ce qu'on appelle deux filiations. Deux grandes familles. La Bible va parler d'une famille en Adam. Entre autres, dans Luc 3, 38, il va parler de la généalogie de Jésus et il va dire que il va parler de fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Luc 3, 38. Acte 17, 24 à 29, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitaient sur toute la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc étant la race de Dieu. On voit donc, et le mot race ici parle d'un lien génétique, d'un lien de création entre Dieu et le Père. Le Père est le Père de tous les êtres humains en Adam. Okay? Mais il va y avoir aussi une nouvelle famille qui va s'établir, une famille en Christ. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Il y a deux grandes familles. Okay? Et Dieu, c'est le cœur de Père que Dieu a pour les uns, il l'a aussi pour les autres. C'est par amour pour ses enfants humains que Dieu a décidé d'envoyer son Fils. Parce que Adam avait créé un précédent épouvantable en établissant, en fracassant, en établissant une séparation entre Dieu et l'humanité. Cette séparation, ce drame épouvantable qui a fracturé la famille, qui a séparé, qui a divorcé, si on peut dire, l'humanité avec Dieu, ce divorce, cette fracture devait être réparée et Dieu s'est incarné pour établir, faire cette réparation-là. Et donc, il a instauré, il a institué une nouvelle famille où est-ce que là, tout est intact. La relation est belle, elle est intacte et maintenant, tout le monde sont conviés à faire partie de cette nouvelle famille-là. Tous sont conviés. Tout le monde sont invités à dire, écoutez, je sais que vous appartenez à une famille qui est fracturée à cette heure. Maintenant, je vous invite à faire partie de la nouvelle famille où est-ce que vous êtes en union, en relation avec Dieu. Et ça, il l'a fait par amour pour les êtres humains. Dieu est Père de tous. D'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 4, verset 6, ça dit qu'il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Éphésiens 3, 14 à 15, ça dit, « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Maintenant, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Le Fils fait ce que le Père fait. Le Fils est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça démontre le cœur de sauveur du Père. Ésaïe 43, Dieu va dire à son peuple, c'est juste moi qui est sauveur, il n'y en a pas d'autre sauveur. Je suis ton sauveur. Le cœur de Père cherche à sauver son peuple. Un autre passage intéressant, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Regardez bien ça. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un seul se perde. Le cœur du Père, le cœur d'amour de Dieu pour les êtres humains, ça doit nous interpeller. Matthieu 5, 48, hein, on voit, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Parfait en quoi? Le contexte nous le dit, « Parfait dans l'amour. » Soyez comme votre Père céleste. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maudissent. Parfait dans l'amour. Dieu est parfait dans l'amour. Ça, je vous le dis, c'est, encore une fois, pour moi, c'est un encouragement à dire, « Hey, peu importe ce qui se passe, Dieu m'aime. Peu importe ce qui se passe, Dieu aime toutes les gens qui m'entourent. Il les aime beaucoup plus que moi je peux les aimer. » Et ça, c'est un encouragement. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Alors l'œuvre accomplie, je vous l'ai dit, ça englobe tellement de choses. Ça a des implications universelles. Le cœur du Père, le cœur de Père que Dieu a. Hein? Le cœur d'amour, Dieu est amour et tout ce qu'il fait est empreint de cet amour-là. Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même. Et ce qui est fantastique dans ça, ce qui est remarquable dans ça, c'est qu'il nous invite à partager cet amour avec les autres. Regardez, je vous laisse avec un dernier verset. 2 Corinthiens 5, 19 à 20. « Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » On a dit tantôt que on a vu Jésus-Christ qui dit, hein, « Qui est plus grand, celui qui sert ou celui qui est servi? » Il va dire celui qui est servi, mais il dit, « Pourtant, moi je suis là et je vous sers. » On a vu que le Fils nous présente, nous montre, nous révèle, nous montre comment le Père est. Avez-vous le cœur de serviteur du Fils? Ça nous montre le cœur, l'humilité du Père, qui est le Créateur de toutes choses, mais qui pourtant s'est abaissé dans l'incarnation. Il s'est abaissé. Apparemment, Dieu n'avait pas peur d'entacher sa gloire par l'incarnation. Dieu n'avait pas peur de s'abaisser à devenir homme. Sa gloire ne peut pas être altérée. Mais ce que je trouve remarquable encore plus, c'est l'humilité, la douceur et comment Dieu est prêt à s'abaisser pour sauver les êtres humains. Mais en quoi est-ce qu'il s'abaisse? Avez-vous vu ce qui est écrit dans le dernier verset que je vous ai dit? On va retourner voir ensemble. C'est remarquable. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions. Comme si Dieu exhortait. Alors, comme si nous, nos bouches étaient celles de Dieu et qu'il disait, comme si Dieu exhortait par nous. Alors, nous sommes ses porte-paroles. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, nous vous en supplions. Le Créateur de l'univers, lui à qui doit revenir toute gloire, qui est majestueux au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser, s'abaisse pour supplier les êtres humains d'être réconciliés avec lui. Ça, là, pour moi, là, ça me dit tout sur qui Dieu est. Dieu tel que nous le présente Jésus-Christ, tel qu'on le voit dans le Nouveau Testament, est un Dieu qui est d'une majesté extraordinaire, mais qui est d'une humilité et qui nous montre de toutes les manières possibles qu'est-ce que ça veut dire que d'aimer. Que Dieu vous bénisse abondamment.